Cette semaine à tous, arrestation samedi dernier en République centrafricaine du numéro 4 de la LRA par l'armée ougandaise. Selon le porte-parole de cette armée, César Asselam, le plus haut responsable de la LRA, est prisonnier à ce jour. Quelle analyse de cette arrestation et quel pourrait être son impact dans la lutte contre la LRA? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce lundi 14 mai 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat le général Jean-Claude Kitwa, commandant de la 9e région militaire. Nous sommes là dans la province orientale. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Mathieu Rocher-Robacher, officier DDRR à la MONUSCO à Goma. Monsieur Robacher, bonsoir. Lui non plus n'est pas encore en ligne. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule politologique en Afrique centrale. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Merci.
Bonsoir aux auditeurs.
Merci, professeur. Merci à vous, chers auditeurs, parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Apamane, bienvenue de Bounia, en province orientale, qui kidnappait le proche de Konou, où lui-même ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan. La solution définitive, c'est de chercher pourquoi ces hommes se sont rébellés. Nikes de Bukavu, Kivu, l'arrestation de ce monsieur est un avertissement pour tous ces seigneurs des guerres qui errent dans les forêts et finiront par être attrapés et déterrés devant la justice internationale. Merci de nous suivre à Dungu, dans la province orientale sur la 100.4 FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 68 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
L'armée ougandaise a annoncé ce dimanche avoir arrêté le numéro 4 de l'armée des résistances du seigneur LALRA. César Asselam a été fait prisonnier en Centrafrique où l'armée ougandaise mène une traque contre ces groupes rebelles dirigés par Joseph Kony. Selon le porte-parole de l'UPDF, armée ougandaise, cité par l'AFP, César Asselam est le plus haut responsable de la LRA, fait prisonnier à ce jour. Il a été capturé samedi matin près de la frontière centrafricaine avec la RDC. Après un bref échange de tirs avec des soldats ougandais. Le point avec vous, Alain Rung.
Le général de division César Asselam, qui a combattu dans la jungle depuis 1984, est désormais entre les mains de l'UPDF, l'armée ougandaise, a déclaré en parlant de lui-même que prisonnier à quelques journalistes emmenés sur place par l'armée ougandaise, indique une dépêche de l'AFP. La même dépêche de poursuivre qu'Asselam occupe la 4e position dans la hiérarchie de la LRA, juste derrière ses 3 principaux chefs, Joseph Kony, Okot Odhiambo et Dominique Ongwen, qui sont recherchés par la Cour pénale internationale. Le mandat d'arrêt de la CPI vise également un 4e homme, Vincent Oti, historiquement le commandant en second et vice-président de la LRA, mais dont tout porte à croire qu'il est mort, ajoute la dépêche de l'AFP. Il s'agit d'un gros poisson à estimer le porte-parole de l'armée ougandaise, Félix Koulagiye, qui a précisé que César Asselam soit prisonnier est un grand pas pour nous vers la fin de la rébellion, affirme l'AFP.
Merci Alain Ronde pour ces détails. La réalisation me signale que le général Jean-Claude Kitwa est en ligne. Général Kitwa, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Alors, monsieur le général, comment vous analysez l'arrestation de cette quatrième personnalité de la LRA?
Et merci pour la question. Moi, je me réjouis parce que c'est le lieu aussi de féliciter les forces armées de la République démocratique du Congo, parce que c'est à partir de notre pays qu'on a commencé des opérations qui ont poussé les rescapés en République centrafricaine. Et comme monsieur le général César Asselam vient d'être arrêté, il doit répondre de ses actes parce que les principaux responsables de la LRA sont poursuivis par la Cour pénale internationale. Et il y a lieu aussi de signaler que Vincent Oti, qui était Le numéro 2, il y avait une dissension interne. Il a été tué pendant qu'il était encore dans le parc de la Garamba. Je crois que celui-là ne pourra pas répondre aux crimes commis, que ce soit en République de l'Ouganda, et chez nous en RDC, aussi au Soudan-Kidd et en République centrafricaine. C'est un pas. Nous devons aller de l'avant pour attraper Kony, qui est le numéro 1. Il y a Dominique Ongwen, qui est le numéro 3, et Okoto Diambo, qui est le numéro 2.
Au général, son cours, tu sais, vous avez une radio allumée à vos côtés?
Non, je me déplace.
Oui, j'essaie de vous déplacer parce qu'on a, on a le retour. Alors, général Jean-Claude, dis quoi. Vous disiez tout à l'heure que vous félicitez les FRDC pour avoir. La question, c'est pour avoir fait quoi, parce que cette opération a été menée par l'armée ougandaise.
Oui, c'est la conséquence des opérations menées d'abord en RDC. Il ne faut pas minimiser ce que les FRDC ont fait. Parce que chez nous, on a eu attrapé celui qui suit jusque-là les dispositifs des opérations. Le colonel Charles Arop, d'environ des tas dans le territoire de Farage. Je ne peux pas vous énumérer tous ceux qui ont été tués, qui faisaient aussi partie au niveau du commandement à plusieurs échelons.
Alors, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale.
Ça semble vraiment partir de Bounia en touriste, province orientale. Il est encore prématuré de juguler quand la LRA ne constitue plus de 15% un corps homogène dont l'implication d'un des membres ne peut préjudicier gravement le mouvement dans le rebelle devenu de Stéradès, donc continuer encore à causer du cauchemar pour les habitants de trois pays, la RCA, la RDC et le Sud-Soudan.
Alors, général, cet auditeur vous dit qu'il est prématuré de vous réjouir de l'arrestation de César Hacham.
Moi, je pense qu'il est pessimiste. Il faut enlever ce pessimisme parce que lui-même, il est d'accord avec moi. On ne parle plus de massacre en RDC, on ne parle plus d'attaque de village. Et c'est que c'est par le passé qu'ils ont commis quand même des crimes, et ça nous ne pouvons pas les nier avant le déploiement des FRDC dans cette partie du pays. C'est grâce à la détermination du commandant suprême et du gouvernement congolais qui ont mis des moyens. Moi, quand je disais que les éléments, ils étaient en contre-trafic, personne ne me croyait. Mais aujourd'hui, les femmes me donnent raison. Même Kony, il y a le numéro 2 qu'il ne faut plus oublier. Il ne faut pas oublier le numéro 2 à l'époque de la LRA, qui a été tué aux environs de Djema, au nord-est de la République centrafricaine, le général Boko Aboudema, au début de l'année 2010. C'est pour vous dire, chez nous, pour le moment, nous observons un climat de répit. Et nous continuons toujours à la recherche de quelques éléments. Mais chez nous, ce sont des Congolais qui jouent beaucoup plus à la LRA. Pour le moment, c'est calme. Vous pouvez vérifier dans les territoires de Farage, dans les territoires de Dungu, dans les territoires de Dango.
Alors, général, qu'est-ce qu'on sait que l'Union africaine a 5 000 hommes pour mener ces opérations? Mais quelle est l'implication de la RDC dans ces opérations?
Donc, les 5 000 hommes-là que vous parlez, madame, les FRDC, ils font partie. Vous vous souvenez qu'on était à Addis Abeba en 2011, au mois de juin. C'était dans la stratégie globale, parce qu'au niveau de l'Union africaine, il y a une initiative qui a été prise. On devait nommer un envoyé spécial pour la LRA dans la région. C'est chose faite. C'est le monsieur Francisco Madeira. Il y a maintenant un représentant des Nations Unies pour l'Afrique centrale, c'est M. Abou Moussa. Les 5 000 hommes, c'est l'ensemble des forces spéciales. Chez nous, on a un bataillon déjà déployé, formé par des Américains. Les Centrafricains ont ses unités aussi au Soudan du Sud. En fait, on a trouvé un cadre d'échange de renseignements et une coordination. Et c'est ce qu'on entend par cette force. C'est-à-dire chaque force doit constituer une unité et que cette unité-là opère sur son sol, mais dans un cadre d'une bonne coordination.
Merci, général Jean-Claude Kifoua. Professeur Bob Kabamba, quelle est votre analyse à vous par rapport à cette arrestation?
Merci pour la question. Donc, il faut bien remettre un peu la lutte contre la RLA dans son contexte. Il faut bien se rendre compte que la lutte contre la RLA a fait une autre dimension depuis quelques mois, disons, depuis quand même l'arrivée de Barack Obama aux États-Unis comme président. Il faut aussi conjuguer ça avec surtout une campagne médiatique assez importante de toute une série d'organisations internationales, dont le Human Rights Watch, dont Amnesty International, et d'autres ONG internationales, qui ont été très actives pour essayer de sensibiliser toute une série d'acteurs au niveau international pour mettre fin à ces crimes. Il y a parfois une dimension américaine, ensuite il y a une dimension internationale. Du fait que ces crimes, le premier, comme on l'a souligné tout à l'heure au niveau par la radio étatique, c'est que le colis est le premier en fait, à avoir eu un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. De ce fait, il va quand même de l'auteur de la CPI arriver à mettre la main sur colis pour espérer le juger. Ensuite, il y a une troisième dimension qui concerne l'Afrique centrale. En Afrique centrale, il faut aussi y intégrer une partie de l'Afrique de l'Est. Et dans ces trois dimensions, on fait en sorte qu'au niveau international, on a eu conscience de pouvoir arriver à mettre fin aux exactions qui ont été commises par le groupe LRA. Et cela a abouti à ce que le général a dit tout à l'heure, à l'implication beaucoup plus engagée de la part des États-Unis, qui se sont impliqués de manière beaucoup plus ferme et de beaucoup plus forte pour qu'on puisse arriver à avoir cette décision, différentes décisions, aussi bien au niveau international qu'au niveau de l'Union africaine, pour qu'il puisse y avoir cette force de 5000 hommes et qu'ils soient aidés par les États-Unis pour arriver à traquer donc la LRA. Et on pense que depuis maintenant, l'opération a commencé en octobre de 2011, on pense que cette opération, que les résultats commencent à se faire voir. Et par ailleurs aussi, il faut bien se rendre compte que la campagne, justement, pour essayer de mettre fin aux exactions de la LRA, ne sont pas en train de faire une voie encore. Et donc, il y a aussi une campagne internationale importante qui est faite aussi par un documentaire dont on a beaucoup parlé dans les médias internationaux. Il s'agit de documentaire qui concerne Inevitable Children, une ONG américaine qui a fait un documentaire qui a été visionné par plus de 100 millions de personnes de par le monde. Et ça a contribué de manière claire à pouvoir sensibiliser les États-Unis à ce qu'ils puissent accroître les moyens à la lutte pour contre la LRA. Par ailleurs aussi, une dimension centrale qui est très importante, dans le sens où cette mise en place, cette collaboration des quatre pays, c'est-à-dire la RDC, la Centrafrique, Sud-Soudan et Ouganda, permet quand même de pouvoir progressivement arriver à avoir une espèce de force régionale, comme il y avait au niveau de la CDAO en Afrique de l'Ouest, une force régionale avec des coordinations entre les quatre pays qui pourraient être utilisées pour pouvoir amener à résoudre d'autres problèmes qui pourraient se poser dans toute la région. Voilà pour une première lecture en réponse à votre question.
Alors, professeur Bob Sabamba, est-ce qu'on peut te dire, sans l'appui de l'armée américaine, la force régionale, dans ce pas d'ailleurs d'été, l'Ouganda, la Centrafrique, le Sud-Soudan, ne serait pas en mesure de démanteler cette rébellion?
Il faut bien se rendre compte qu'il y a quatre pays. Il y a quatre pays qui sont impliqués. Et quand on parle des quatre pays qui sont impliqués, je dois vous rappeler que la RDC a été en conflit avec l'Ouganda quand même pendant plusieurs années. Je dois vous signaler aussi que le Sud-Soudan est un pays indépendant il n'y a pas longtemps. Et la Centrafrique était aussi traversée par une série de troubles. Et donc il a fallu qu'il y ait quand même une dynamique externe ascendante qui permet de pouvoir aider à la coordination, aider à la mise en place de cette force. Je ne dirais pas que sans les États-Unis, on n'aurait pas eu cette force, mais je dis avec les États-Unis, on a eu cette force. Et cette force aussi, une centaine d'hommes qui continuent, ce n'est pas le général Kiffon qui va me demander, qui continuent à être présents et qui fournissent quand même beaucoup d'informations aux différentes armées qui sont impliquées sur le terrain pour pouvoir coordonner. Et je ne pense pas un seul instant que cette force pourrait devenir permanente, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de la CDAO. Donc, ce serait une force régionale claire, bien armée, bien intégrée et bien formée, qui pourrait servir dans d'autres causes qui continuent à servir dans la région. Donc, c'est plutôt avec les Américains que cette force a été possible.
La RDC doit-elle réagir à cette arrestation?
Ben, je pense que la RDC doit se réjouir de cette arrestation. Pourquoi elle doit se réjouir de cette arrestation? Parce que ça lance un signal très fort par rapport à d'autres contextes, par rapport à d'autres cas que l'on connaît à RDC, et qui permet de dire que même si on a commis des actes graves pendant plusieurs années, on peut échapper à la justice, et que il arrive à un moment donné où une prise de conscience internationale est faite grâce à la sensibilisation et grâce à la mobilisation des ONG, permet à ce qu'on puisse se mobiliser pour pouvoir mettre fin à et mettre fin à une série d'exactions, et aussi, la chose importante, pouvoir rendre justice aux victimes, ce qui est toujours une part très importante. Et donc, la RDC doit se réjouir du fait aussi, je veux dire aussi que la RDC, dans le cadre de la stratégie globale des Américains par rapport à la prise d'intérêt de la région des Grands Lacs, ça veut dire que la RDC redevient, parce que vous vous souvenez que pendant la guerre froide, la RDC a été quand même le pilier de la politique américaine en Afrique centrale, et que de cette façon, cette position qu'avait la RDC a été remplacée par l'Ouganda, donc on peut espérer effectivement que la RDC va retrouver un certain intérêt géostratégique par rapport aux Américains sur une série de questions. Et que ça ne se limite pas, je ne pense pas que cela, il ne faut pas non plus être naïf, que ça se limite uniquement à cette question géostratégique, il y a aussi quand même d'autres intérêts qui interviennent dans le cadre du positionnement des États-Unis sur la région, notamment la question du pétrole, qui redevient la zone, la zone nord-est de l'RDC, ainsi que la zone ouest de l'Ouganda, surtout dans, devient quand même une zone très importante par rapport aux États-Unis, pour lesquelles il est important pour eux de pouvoir implanter, de pouvoir s'y intéresser à nouveau. On a une chose aussi que je parle dynamique par rapport aux intérêts géostratégiques des États-Unis, qui a une dimension idéologique. Vous n'êtes pas sans savoir que le Soudan, maintenant le Soudan devient indépendant, et le Soudan a été sur la liste noire quand même des pays qui soutenaient le terrorisme. Souvenez-vous de cet attentat de Nairobi et des attentats de Dar es Salaam. De ce fait, les Américains, profitant de la dimension connue, permettent de remettre le pied, en fait, dans une région qui, progressivement, devient un enjeu important au niveau international. Il y a aussi une nouvelle dimension qu'il faut aussi dire aux auditeurs, c'est que la Chine est très présente dans cette région. Et vous savez très bien que de plus en plus, il y a cette dimension, cette conflictualité des intérêts entre d'une part le monde occidental et d'autre part la Chine. En ressortant fourni à hauteur de 6% de son pétrole en Chine, et donc de ce fait, le Soudan est un enjeu important pour la Chine. Donc les États-Unis, en remettant un pied dans cette région, ils espèrent contester la suprématie de la Chine dans cette région aussi.
Merci, professeur. On va prendre pour vous cette question qui nous vient de Bukavu, aussi qui vous.
Matumaini Franklin de Bukavu aussi Kivu. Les rébellions en Afrique n'ont souvent pas été une conception africaine. Les Africains ne font que matérialiser les complots contre leur continent qui se décide dans des salons VIP et loin de leur continent. Car comment expliquer que la LRA et Joseph Kony se maintiennent malgré une alliance militaire régionale? Il est vrai que les rébellions africaines profitent de la flexibilité des armées africaines. Il faut se demander aussi si l'armement et l'encadrement de toutes ces rébellions qui visiblement dépassent ceux de certaines armées officielles.
Professeur, réaction.
Oui, les rébellions africaines ne sont plus des rébellions comme on en a connu avant. Les rébellions africaines sont mises dans plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle des rébellions qui sont des rébellions de pillage des ressources naturelles et qui s'auto-alimentent avec le pillage des ressources naturelles et qui ferment les désordres dans tout dans la région qu'ils contrôlent. Et de part et d'autre, modes de rébellion qui sont fondés sur des ce qu'on appelle des rites messianiques, c'est-à-dire des rites comme les Maïmaï et comme Joseph Kony, qui utilisent les religieux pour pouvoir mobiliser une série de gens par rapport à une cause, des fois, une cause qui peut être inconnue. Alors, normalement, ces rébellions, malheureusement, sont toujours instrumentalisées d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que, pour ceux qui, par exemple, sont des rébellions qui sont qui ont comme finalité uniquement le contrôle des ressources naturelles, bien entendu, seront utilisés et instrumentalisés par les institutions, par les entreprises qui travaillent dans les mines. Lorsque vous allez par exemple, pour prendre l'exemple de Kony, lorsque l'on a soit des rébellions, le risque de cette rébellion, soit instrumentalisée par les certains pouvoirs, on va prendre le cas de l'Ouganda qui instrumentalise la LRA pour pouvoir mener une répression dans des régions qui ne sont pas nécessairement favorables au régime de Kampala. Et donc il y a toutes ces dimensions-là sur lesquelles il faut tenir compte et pour répondre justement à la question donc, de l'auditeur de Bukavu.
Merci professeur Bob Kabamba. Nous devrions avoir dans cette émission Mathieu Robacher, officier DDR à la MONUSCO à Goma. Malheureusement, la réalisation n'arrive pas à le joindre. À la place, nous avons Dismas Kitenge, président du groupe Lotus et vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Monsieur Kitenge, bonsoir. Monsieur Dismas Kitenge. Apparemment, on a un petit souci avec la ligne des Dismas Kitenge. La réalisation va essayer de le rappeler. En attendant, on va prendre quelques réactions des auditeurs. C'était du Tungi de Kisangani en province orientale. Je voudrais savoir pourquoi cela a pris beaucoup de temps pour que cette quatrième personnalité de Joseph de la LRA soit arrêtée. Est-ce par manque des moyens, des militaires ou par la mauvaise volonté des autorités tant civiles que militaires des trois pays concernés. Général Jean-Claude Tifoua, comment vous répondez aux questions que se pose Pépé Lufungi?
Merci. Je voudrais d'abord saluer le professeur Bob Kabamba parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Et saluer aussi M. Dismas Kitenge, je crois que demain, l'autre, vous pouvez le joindre. Bon, la faiblesse, ce n'était pas, madame, c'était la non-implication dans ce combat de la République centrafricaine. Parce qu'à l'époque, nous, on demandait ce que cette situation soit circonscrite dans un cadre régional. Je le dis aussi de saluer, de féliciter la géopolitique actuelle de notre gouvernement par son implication diplomatique. Parce que c'est cette implication qui a permis que nous, l'armée, nous puissions nous engager dans ce combat avec d'autres pays. Moi, je pense que c'est ce qui a posé ce retard. Mais pour le moment, bon, ce n'est pas tard. Parce que chez nous, même le monsieur qu'on vient de capturer, le numéro 4 de la LRA, il est à la tête de combien de combattants? C'est parce que parmi les objectifs que nous nous sommes fixés ici chez nous, on a eu à réduire sensiblement la capacité militaire bénisante de ces groupes. On a détruit la chaîne logistique. On parle qu'il a été capturé avec 8 cartouches. Vous voyez qu'ils ont pris des logistiques. Tout ça, c'est l'effort, c'est ce combat qu'on a eu à mener. À l'époque, on était critiqué. Sinon, on a l'habitude.
Et donc, à ce jour, on peut dire qu'il n'y a plus de combattants LRA sur le sol congolais?
Plus de combattants LRA sur le sol congolais. Vous suivez, vous êtes journaliste, vous suivez aussi d'autres médias. On ne parle plus de LRA, que ce soit à Dungu, dans le territoire de Farage ou en. On avait affaire à des petits bandits congolais qu'on a eu à maîtriser. Pour le moment, c'est calme.
Merci, Général Jean-Claude Tifoua. La réalisation me signale que M. Dismas Kitenge est en ligne. M. Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes, je disais que vous êtes président du groupe Lotus et vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. Comment vous avez accueilli l'arrestation de cette quatrième personnalité de la LRA?
J'ai accueilli avec satisfaction l'arrestation de la quatrième personnalité de l'ERA, parce que ça montre quand même un effort qui est déployé au niveau régional pour arriver à maîtriser les éléments de l'ERA, dont la plupart sont déjà considérés comme des grands violateurs de droits humains, mais aussi presque comme des terroristes, puisqu'en fait ils sèment l'insécurité dans plusieurs pays de la région. J'ai salué également cette coordination et cette coopération militaire qui existe déjà entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Ça, c'est quelque chose de bon, mais il reste beaucoup de défis. Donc, je continue à croire, comme un acteur sur les terrains de la province orientale, que les éléments de l'ERA sont encore dans le district de Outouélé et le district de Bazuélé. Mais c'est vrai qu'ils ne sont plus comme ils étaient avant, c'est-à-dire les nombres discutables, mais à l'heure actuelle, personne ne peut avancer un chiffre exact de ceux qui sont encore sur le terrain. C'est qu'on sait que c'est un groupe qui opère comme une guérilla et qui se déplace à une vitesse extraordinaire. Du côté de Haute-Soulé, il y a eu beaucoup d'efforts, mais du côté de Bazuélé, il y a encore des défis importants.
Vous avez suivi le général Kifoua qui dit qu'il n'a plus un seul combattant LRA sur le sol congolais.
c'est trop fort cette affirmation-là, puisqu'en fait, les LERA existent encore par les districts de Haute-Huélé et des Basse-Huélé. On a signalé leur présence, puisqu'en fait, la difficulté, c'est que la plupart de nos frontières avec l'RCA, avec l'Ouganda, ne sont pas suffisamment sécurisées. Ce qui fait qu'il y a des sentiers par lesquels les rats utilisent, qui échappent à l'armée congolaise. Et nous connaissons aussi les limites de l'armée congolaise, c'est le problème d'équipement, hein, des logistiques, qui ne leur permettent pas d'être plus efficaces, puisque la traque des rats demande aussi que l'armée congolaise puisse avoir, par exemple, des hélicoptères. Quand les routes ne sont plus praticables, ça signifie que l'armée doit avoir la confiance de la population, puisqu'il faut impliquer la population de Haute-Huélé, de Basse-Huélé, dans cette traque contre Eléra. Et là, notre armée n'a pas encore totalement la confiance de la population, et le général a bien parlé de certains Congolais qui se font passer pour Eléra. Tout ça, ça montre que vraiment, il n'y a pas une bonne coopération entre la population et FARDC.
Alors, M. Dismas Kipengi, on sait que votre organisation, la fédération, la FIDH, collabore avec la CPI. Certains auditeurs se demandent si cette quatrième personnalité de la LRA doit être aussi envoyée à la CPI.
En principe, ça doit être le cas, puisque la CPI a ouvert des enquêtes et la CPI a décerné le mandat contre Joseph Kony et ses éléments, et qui ont commis des crimes internationaux. Ce ne sont pas des simples violations de droits humains, ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et en tant que tel, c'est la CPI qui est compétente. Comme la CPI avait déjà ouvert les enquêtes sur le cas des LRA, avait déjà qualifié ce groupe d'un groupe vraiment qui viole, qui commet des crimes internationaux, donc c'est normal que la justice pénale internationale, et en l'occurrence la Cour pénale internationale, puisse vraiment à s'occuper de ces messieurs, c'est-à-dire qu'ils soient le plus rapidement possible transférés à la Cour pénale internationale. Et nous savons que la justice ougandaise est aussi limitée. Aujourd'hui, les garanties d'une indépendance judiciaire et d'une poursuite impartiale, c'est la CPI qui les garantit. Et ça doit être un exemple concret des actions de la CPI.
Alors, il y a cet auditeur, Apanan est bienvenu de Boune en province orientale, qui dit ceci, kidnapper le prince de Kony ou lui-même ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan. La solution définitive, c'est de chercher à savoir pourquoi ces hommes se sont rébellés.
C'est vrai que les causes sont nombreuses, mais aujourd'hui, on ne peut jamais justifier la violence. Hein, pour n'importe quel prétexte. Donc, quelqu'un ou un groupe de personnes, puisqu'elles seraient lésées, puisque leurs droits seraient violés, qu'elles se permettent de prendre les armes et d'éviter, ça c'est condamnable. La violence ne peut jamais se justifier pour que ce soit. Donc, Kony qui a pris des armes, donc il est condamnable. Même si certaines de ces revendications d'ordre des politiques pourraient être compréhensibles, mais le fait qu'il a pris des armes, qu'il a tué des gens, qu'il commet des crimes, et malgré le processus de paix qui avait été initié en Ouganda, connu, en tout cas, s'est opposé à ce processus-là. C'est un criminel international, et son groupe est considéré comme tel, et il faut le traquer jusqu'à la dernière demeure, et réduire vraiment ce mouvement qui est devenu aujourd'hui un danger dans la région des Grands Lacs.
Alors, un autre auditeur dit ceci, qu'il est prématuré de se réduire, car ces éléments LRA agissent maintenant en ordre dispersé et peuvent ressurgir à tout moment.
Oui, je partage en partie cette analyse, puisque, comme le général disait, qu'il y a aussi des complicités congolaises, mais il y a aussi des complicités ougandaises, sud-soudanaises. Donc c'est vrai que la plupart des pays où l'RRA opère ont beaucoup de problèmes. Et les gens peuvent profiter de ces prétextes. C'est que le phénomène LRA est devenu complexe. Il y a des implications multiples d'ordre politique, d'ordre économique, social. Mais la priorité maintenant, c'est d'abord de réduire cette rébellion-là, ces groupes armés désordonnés terroristes. Et ensuite, dans la plupart des pays où l'LRA a trouvé sa raison d'existence, souffre de déficits démocratiques, souffre également des problèmes de respect des droits humains, et ça, il faut que les États de la région, l'Ouganda en particulier, le Soudan et le Sud-Soudan, la RDC puisse aujourd'hui être aussi des États vraiment démocratiques et des États de droit.
Merci.
C'est-à-dire où la justice est indépendante, où la justice peut faire son travail, et où aussi la stabilité existe et la paix est réelle.
Merci, Dismas Kipenge. Quel pourrait être l'impact de cette arrestation dans la lutte contre la LRA? C'est la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que nous recevons dans cette émission pour les débats général Jean-Claude Kikwa, commandant de la 9e région militaire, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule politologique en Afrique centrale, et Dismas Kipenge, président du groupe Lotus et vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme FIDH. Professeur Bob Kabamba, quel pourrait être l'impact de cette arrestation dans la lutte contre la LRA?
Ben, je pense que je ne partage pas l'avis du président de la LRA. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'on parle d'un mouvement rebelle, un mouvement rebelle se nourrit toujours dans son territoire, soit avec les ressources, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en décapitant la LRA, c'est-à-dire qu'en essayant de mettre un État hors d'état de nuire les dirigeants de la LRA, on coupe, en fait, on va leur couper, il n'y aura plus de possibilité de revendication. Donc là, le mouvement de la LRA ne peut pas naître en RDC, puisque tout simplement, ce n'est pas les mêmes causes qui ont créé la LRA en Ouganda, que ce sera la même chose au Congo, ou mieux en Centrafrique. On veut dire, en mettant fin à la présence et en arrêtant ces différents dirigeants, on a de mon point de vue, on va décapiter la LRA dans les régions, c'est-à-dire en RDC, c'est-à-dire en Centrafrique et au Sud-Soudan. Rien n'empêche peut-être que ça pourrait recommencer au niveau de l'Ouganda. Mais en RDC, je n'y crois pas. Alors, quel est l'impact que ça va avoir au niveau de la LRA? De manière très claire, dans tous les rapports qui sont en train d'être diffusés, on se rend bien compte, comme le général Kifon a dit tout à l'heure, c'est que la LRA est affaiblie. La LRA, elle a été arrêtée, le général n'avait que 8 balles. De plus en plus, ça veut dire que les taux sont en train de bien se resserrer au niveau de ce qu'il a fait sur Joseph Kony. Et de tous les rapports qu'il existe, de plus en plus, il s'y rend bien compte qu'à l'avant, à la fin de l'année, Joseph Kony sera soit arrêté, soit tué. Alors, ce qui est aussi important par rapport à ça, c'est ça que j'insiste beaucoup, c'est ce que le général dit, va pouvoir me le confirmer par rapport à la volonté au niveau régional de pouvoir constituer en fait cette force régionale qui peut être vraiment utilisée avec l'appui des Américains pour traquer d'autres mouvements rebelles, pour traquer d'autres responsables d'auteurs de dépression. Je pense notamment aux SPLR FOCA pour lesquels la Cour de main internationale a ouvert des mandats d'arrêt, et je pense aussi à ce qui se passe à l'Est, la RDC, notamment dans la zone de Rutshuru, Masisi, etc., avec les ex-soudanais du Kosovo-Taganda. Et donc, on pourrait arriver à avoir cette institution, cet instrument militaire, qui serait un élément hyper important dans le cadre de la lutte contre tous ces mouvements rebelles qui sévissent dans la région des Grands Lacs et dans ce pays ont grandement besoin d'avoir une force entraînée, une force capable de pouvoir mettre en état de nuire tous ces corpuscules qui sèment la terreur.
C'est pour ça qu'il y a cet auditeur de Bukavu, Arnaud Dombeni, qui dit ceci: cette arrestation ne peut en aucun cas contribuer à la paix dans l'est du Congo, étant donné que la personne arrêtée n'est que la 4e personnalité dans le mouvement de la LRA. Les 3 premières personnalités, qui sont les têtes pensantes du mouvement, continueront leurs actions et les populations congolaises seront de plus en plus en insécurité.
Je ne crois pas, je ne partage pas l'avis de l'auditeur. C'est-à-dire que lorsque l'on prend la 4e personnalité, qui est aussi, quand même, un général, comme on l'a souligné tout à l'heure, qui est quand même été très actif et qui a combattu, et que lorsqu'on on le capture, il est capturé avec quelques hommes, de mon point de vue, c'est la preuve, effectivement, que le mouvement est en train de s'affaiblir. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier que même l'application des Américains n'est pas une application gratuite. Je vais lier ça aussi avec la campagne électorale aux États-Unis, avec aussi Obama qui veut se donner comme une stature de guerrier militaire, parce qu'on a toujours accroché de ne pas être quelqu'un qui s'engage de manière militaire, et que ça, ce sont des éléments qui vont lui permettre de pouvoir asseoir une stature au niveau des États-Unis, et donc au niveau de la politique intérieure par rapport à son élection, une stature de guerrier, des capables, des quelqu'un de pouvoir aller traquer dans le fin fond de l'Afrique un criminel et de pouvoir l'arrêter. Et ça, c'est tout à fait important. Je pense que tous les rapports sont clairs et qui disent que dans les prochaines semaines, voire mois, avant la fin de l'année, si j'entends, je lis que le général responsable d'Africaine, donc de la responsable du commandement militaire africain des États-Unis, qui est du très clair, et qui sont pas raison de croire que dans les prochains mois, ils arriveront à mettre la main sur Joseph Kony, ou bien le tuer, ou bien l'arrêter. C'est ça, je le tiens donc de la lecture que j'ai lue de la déclaration du général qui est responsable donc de l'Afrique au niveau de l'armée américaine.
Merci, professeur Bob Kabamba, général Jean-Claude Kifoua. Quel impact cette arrestation pourrait avoir sur, dans la lutte contre cette rébellion?
Madame la journaliste, moi je suis optimiste parce que au début, il faut rappeler pour la bonne compréhension quand même du sujet, on avait estimé à 1500 le nombre de LRA, y compris leurs dépendants. On a eu amené des actions chez nous, à l'époque ils étaient chez nous. On a eu à tuer plus de 500 éléments LRA. Moi, je partage l'analyse du professeur Bob Kabamba. Même si on essaie de minimiser les objets, on dit le numéro 4, ça ne sera rien, il y a l'impact. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigent les unités sur le terrain, ce n'est pas connu, ce n'est pas. Il y a des petits commandants qu'on a eu à neutraliser. On a coupé la chaîne logistique. On a diminué cette capacité militaire de nuisance. Moi, je pense que l'expérience est une forme de connaissance. On a commencé à combattre la LRA depuis 2008. On a acquis quand même une certaine expérience qui s'est transformée en connaissance. Parce que la LRA ne sera plus une menace chez nous. Ça, je peux vous le garantir. Maintenant, le numéro 4 dont on parle, le César Ocelam, qui vient d'être capturé en République centrafricaine, même s'il n'est pas poursuivi directement par la Cour pénale internationale, il y a d'autres procédures. Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut se saisir du dossier. Les pays, par exemple l'Ouganda, peut se saisir s'il juge qu'il n'a pas la compétence de les juger sur lui dans cette matière. Moi, je pense que c'est un criminel. Même s'il n'est pas jugé par la Cour pénale internationale, il sera jugé par un tribunal, soit ougandais, pour des crimes commis. Parce qu'ils ont commis beaucoup de crimes, beaucoup de mutilations, et beaucoup de violences sexuelles, et tout ce que vous voulez comme crimes qu'ils ont commis chez nous. Moi, je pense que les approches sont un peu différentes, parce que moi, je parle dans une approche militaire en tant qu'une stratégie militaire. Il y en a ceux qui sont pessimistes. Moi, je vois en tout cas un avenir radieux parce qu'on va mettre la main sur Kony partout où il sera.
Mais est-ce qu'on sait où il se trouve en ce moment, général Jean-Claude Kifoua?
Moi, je disais qu'il était en Centrafrique. On ne croyait pas. Il était au nord-est de la République centrafricaine, à cheval et la République du Tchad et le Darfour. Moi, je pense qu'il doit se trouver au Darfour parce qu'il est mobile. Mais il a pris des logistiques et il sera capturé.
Pourquoi vous ne craignez pas qu'il se retrouve peut-être en ce moment là où il se trouve?
Il se retourne où?
Qu'il se ressource, je dis.
Regrouper ou bien retourner?
Se ressourcer en armes et en hommes. Où il se trouve en ce moment?
C'est impossible. Il est en position de faiblesse.
Merci, général Jean-Claude Kifoua. Diplomate Kipengé, à votre avis, est-ce que l'arrestation de ce haut responsable de la LRA peut-elle fragiliser le mouvement? Monsieur Kipengé? Nous avons des problèmes avec la ligne des Diplomate Kipengé. On va prendre un autre lot des auditeurs qui nous écrivent. Monsieur de Kinshasa, l'arrestation du numéro 4 de la LRA est un signal fort pour la RDC. Ce qui manque, c'est de mettre un service de renseignement dynamique afin de dénicher et traquer en temps réel tout malfaiteur interne ou externe de la RDC. Professeur Bob Kabamba, votre réaction à cette proposition de cet auditeur de Kinshasa?
Ben, tout à fait, parce que de manière claire, ce sont des signaux dont on a besoin effectivement pour pouvoir arriver à montrer que les criminels ne sont pas impunis. Joseph Kony a commencé ses exactions depuis bien avant. Le mandat d'arrêt a été décerné contre lui en 2005, donc nous sommes en 2012. Et donc, même si, pour revenir sur la question aussi de la justice, nous sommes en 2012, ça veut dire que progressivement, les actions se mettent en place pour essayer d'arriver à les capturer et à ce qu'ils soient jugés au niveau international. Mais par ailleurs aussi, quand on parle de la justice, ce n'est pas uniquement au niveau de la CPI. Il y a aussi la justice congolaise qui peut être activée parce qu'il a commis des exactions en RDC, la justice ougandaise, bien sûr, donc de manière très claire. Même si on n'a pas capturé encore Joseph Kony, qui est tout à fait en cours, mais c'est aussi un signal pour d'autres crimes et pour d'autres gens qui se pensent et croient impunis et qui continuent à commettre des actions, qu'ils sachent, de mon point de vue, que la justice internationale finira par mettre la main sur eux et on arrivera progressivement à pouvoir résoudre cette question de l'insécurité, de l'impunité
dans
cette partie de l'Afrique.
Merci, professeur. La région compte le signal qu'on a Dismasa Kitenge. Monsieur Kitenge, je disais, est-ce que l'arrestation de ce haut responsable de la LRA peut fragiliser le mouvement?
Certainement. Ça a un impact d'abord psychologique sur le groupe de Kony. Elles sont vraiment affaiblies. Ensuite, ça risque d'entraîner un dispersement de ces troupes, puisqu'elles ont peur, elles doivent se sentir déjà encerclées, elles vont donc avoir peur. Mais il y a aussi une inquiétude qu'il faut exprimer, c'est que si réellement ce groupe de LRA sont soutenus ou il y a des complicités, il y a moyen aussi qu'ils puissent avoir le moyen de se réarmer. Mais pour l'instant, on note que l'impact direct, c'est que l'affaiblissement de LRA est davantage constaté.
Merci, Dismas Kitenge, chef de travaux Jean-Bernard Nibeko de Mbandaka, l'Équateur. C'est les résultats de la détermination du gouvernement ougandais à en finir avec la LRA et les débuts de la décapitation de ce mouvement rebelle. Et là, devra servir d'exemple au gouvernement de la RDC afin de mettre tout en œuvre pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui troublent la paix à l'est du pays. Robert Baume de Bukavu, suivez-vous. Je pense que cette arrestation du numéro 4 de la LRA est une bonne chose dans la mesure où elle permettra tant soit peu à la fragilisation et à la dissension de ce mouvement rebelle qui a longtemps séjourné en Ouganda et en RDC et en province orientale. Encore faudra-t-il qu'on arrête également les autres chefs, surtout le numéro 1, pour que la lutte, la traque soit efficace et efficiente, afin que la population congolaise et ougandaise recouvre la paix et la sécurité. Général Jean-Claude Kipa, nous tournons vers la fin de cette émission. Alors, un mot en guise de conclusion.
Moi, je pense que tous ces criminels seront arrêtés et jugés. Il faut vous souvenir, même en Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le procès de Nuremberg. Vous connaissez la suite. Monsieur Robert Hess, qui était le secrétaire particulier d'Adolf Hitler, il a terminé sa vie en prison. Tous ces gens seront attrapés et ils seront responsables de tous les actes qu'ils ont eu à commettre en RDC, en Ouganda, au Soudan du Sud et à la République centrafricaine. Moi, je pense que c'est une bonne chose. On doit avoir conscience parce que nous sommes impliqués. Notre gouvernement s'est impliqué. C'est pour cette raison qu'il y a eu même l'affaiblissement de ce mouvement terroriste international.
Merci, Général Jean-Claude Kifwa, professeur Bob Kabamba, en un mot, conclusion.
Conclusion, on peut espérer que cette force va se maintenir et va continuer la traque de Joseph Kony, et par ailleurs aussi que cette force pourra être utilisée pour notamment mettre hors d'état de nuire des gens comme Bosco Ntaganda et d'autres qui sèment la terreur dans les deux Kivu.
Merci, professeur Bosco Bamba. Dismas Kitenge, conclusion.
En trois mots rapidement, le premier c'est que c'est un bon signe de la coopération militaire et la mobilisation de la communauté internationale pour traquer et neutraliser les rares répandus. Deuxièmement, il y a d'autres défis. Il y a des défis qui restent, les défis vraiment de la réconnue et les défis de la pacification de toute la région. La région qui fait face à beaucoup de mouvements rebelles, connus et inconnus,
Et le dernier défi, c'est vraiment la démocratisation de l'état de droit.
Merci Dismas Kipengui, c'est la fin de cette émission. Merci à Guy Mathieu Alain, Samuel Katia, sous la supervision de Ben Kabamba, qui nous ont aidé à préparer et réaliser cette émission. Merci à Willem Lungamba, qui était à la technique. Au micro, Kevin Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet, www.radio.net. Rédiffusion demain, 14h, hors de Kinshasa. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Thank you.